en famille avec Zour sur Radio Orient.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Orient. Le 30 avril, la journée de la non-violence éducative nous rappelle qu'élever un enfant, c'est d'abord lui offrir un espace de sécurité, d'écoute et de respect. Dans un monde où les parents sont souvent pressés, fatigués, parfois démunis, cette journée ouvre une porte vers d'autres manières de transmettre, d'accompagner et de poser des limites sans blesser. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui la coach parentale Doha Hassouni qui accompagne les familles vers une éducation plus consciente, plus douce et plus efficace. Avec elle, nous allons comprendre comment transformer les gestes du quotidien au moment d'apprentissage et de connexion. Bonjour Doha et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour ma chère Zohor, bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs sur les ondes de Radio Orient et toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous. Mais cette fois, avant même de répondre à tes questions, parce que je sais que tu en as plein, j'ai envie de dire quelque chose d'essentiel. Il n'existe pas de parents parfaits. Bon, c'est important pour moi de le dire. D'ailleurs, c'est Donald Winnicott qui parlait du parent suffisamment bon. C'est un parent qui fait de son mieux, qui se trompe parfois, je pense comme tous les parents, mais qui reste présent, qui répare et qui essaye. Et c'est exactement de cet endroit-là qu'on part aujourd'hui. Pas pour juger, pas pour culpabiliser, mais pour comprendre et peut-être faire un pas de côté.
Doha Hassouni, que représente pour vous la journée de la non-violence éducative et pourquoi est-elle si importante aujourd'hui?
Pour moi, cette journée, c'est vraiment une invitation à regarder autrement ce qu'on a longtemps considéré comme normal. Et peut-être même avant de répondre à ta question, je pense qu'il serait intéressant de passer par une définition, une petite définition de ces violences dites éducatives et ordinaires. C'est quoi exactement? Donc déjà, c'est une notion qui est portée notamment par Olivier Morel et des associations comme Stop VEO, Stop VEO. Et donc, il s'agit, donc, quand on parle de violence, c'est les différentes violences psychologiques, physiques ou verbales. Éducatives, parce que généralement, ça part d'une bonne intention. Donc, on ne le fait pas exprès. C'est juste pour éduquer l'enfant, pour qu'il puisse avancer. C'est pour lui transmettre nos valeurs, etc. Et ordinaire, parce que c'est normal. C'est plutôt quelque chose qui est vu comme normal dans la société, c'est banalisé, et donc ça ne fait pas de mal. Et souvent, ben ça ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Donc ce sont des petits mots du quotidien, souvent hérités, et qui deviennent aussi souvent automatiques. Et pourtant, aujourd'hui, les neurosciences nous montrent que ces expériences peuvent activer du stress chez l'enfant. Je précise quand même que voilà, ces expériences-là, mais de manière répétitive. Donc, c'est là où ça devient dangereux. Et un enfant stressé n'est pas un enfant qui apprend ou qui comprend. C'est plutôt un enfant qui va essayer tout le temps de se protéger. Donc, cette journée est importante parce qu'elle ne vient pas accuser, elle vient éclairer. Et il dit, on peut faire autrement et vous n'êtes pas seul pour ça.
Doha Hassouni, beaucoup de parents confondent encore non-violence et laxisme. Comment expliquer clairement la différence entre une éducation bienveillante et une absence de cadre?
Oui, et derrière cette confusion, il y a plusieurs éléments, dont la comparaison, la comparaison avec les autres parents, comment ils font, la comparaison avec les parents qu'on voit sur les réseaux sociaux, et il y a souvent la peur de perdre sa place de parent, la peur que l'enfant prenne le dessus. Donc finalement, c'est cette peur de perdre son autorité parentale. Mais en réalité, un enfant a profondément besoin de repères. Un tout petit qui tente de toucher une prise, un enfant qui refuse d'éteindre un écran, un adolescent qui teste les horaires, tous ont besoin d'un cadre. Alors la différence, ce n'est pas est-ce que je mets en place un cadre ou pas. Non, la différence, c'est la manière de poser ce cadre. Et on peut dire à un enfant de 3 ans, avec fermeté, Ben, je ne peux pas te laisser faire ça, c'est dangereux. On peut dire à un adolescent, bon, je comprends que tu veuilles plus de liberté, et en même temps, il y a des règles à la maison. On reste présent, on reste solide, sans écraser, et tout ça ne veut pas dire qu'on va laisser faire. Non, tu peux faire tout ce que tu veux. Non, on accompagne, mais avec clarté et avec respect.
Quels sont, selon vous, les gestes ou paroles du quotidien qui peuvent être violents sans que les parents en aient conscience?
Alors souvent, ce sont des choses toutes simples, presque invisibles. C'est par exemple quand on dit à un petit « mais arrête de pleurer, oh là là, mais tu n'es pas une fille, arrête de faire ta chochotte », par exemple. Ou quand on dit à un enfant « regarde ton frère, regarde comment il m'écoute, regarde comment il fait moins de bruit, il est sage ». Ou, encore une fois, j'adore donner plein d'exemples selon les différents âges, quand on dit à un adolescent « Ah mais tu es vraiment ingrat, avec tout ce que je fais pour toi, tu es vraiment ingrat ». Ou encore, tout simplement, ne plus parler, parce que parfois, oui, on punit aussi avec du silence pendant des heures pour faire comprendre. Pour un parent, c'est souvent un réflexe, mais pour l'enfant, ça peut être vécu comme une coupure du lien. Et là, il va falloir essayer de réparer ou de reconstruire ce lien. Les recherches, encore une fois aujourd'hui, montrent que le cerveau de l'enfant est extrêmement sensible à ça. Alors même, bien sûr, je parle toujours de cette notion aussi de répétition. Donc une remarque sur le ton de l'humour, mais qui peut l'humilier, eh bien, elle peut rester jusqu'à l'âge adulte. Pareil pour les comparaisons. Tout ça, donc, ça peut laisser vraiment une trace émotionnelle. Encore une fois, l'idée n'est pas de se dire je fais mal ou je suis un parent nul, donc pas du tout. Mais c'est plutôt de dire bon, je comprends mieux, je vais essayer de faire autrement. Et voilà, je fais ça aujourd'hui, mais voilà, comment faire autrement, comment m'améliorer.
Doha Hassouni, quand un parent est épuisé, stressé ou dépassé, comment peut-il éviter de réagir sous le coup de l'émotion et adopter une posture plus apaisée?
Merci pour cette question. Déjà, de reconnaître que c'est difficile, qu'on est humain et que c'est normal de passer par des périodes où on se sent fatigué, épuisé, qu'on n'en peut plus parce qu'on a trop de choses à gérer. Donc un parent qui gère une journée de travail, un enfant qui fait une crise dans un supermarché, un adolescent qui répond sèchement, c'est beaucoup. Et dans ces moments-là, le cerveau ne réfléchit plus vraiment. Il réagit. Donc la première chose, c'est de s'autoriser à ne pas être parfait. Ensuite, je dirais essayer de créer un tout petit espace, mais vraiment tout petit. Par exemple, dire « là ça ne va pas, je vois qu'on est tous les deux en colère, bon, je reviens dans 2 minutes. » On prend une respiration et puis après on revient. Même quelques secondes, parfois, peuvent changer une réaction. Et puis se rappeler doucement que mon enfant ne me fait pas ça contre moi. Lui aussi, il traverse quelque chose. On oublie souvent que eux aussi traversent des journées qui sont longues, que peut-être ils ont vécu pas mal de choses déstabilisantes pendant leur journée. Et tout ça, vraiment, je pense que ça peut changer énormément de choses dans notre quotidien.
Quel outil simple et concret un parent peut-il mettre en place dès aujourd'hui pour instaurer un climat familial plus serein?
Alors avant tout, je n'ai pas d'outils ou de... comment dire, ou de clés ou de solutions toutes faites. Déjà, je n'aime pas du tout ce mot-là. Voilà, la solution magique qui va résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas possible. Donc, je donne des idées. Ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. L'idée, c'est d'essayer. Essayer, mais essayer sur du moyen long terme. Parce qu'on a pris du temps, parfois même des années pour instaurer certains réflexes. Donc c'est normal que ça prenne du temps, de l'entraînement, de la répétition pour que ça change. Alors parfois, ce sont de tout petits ajustements. je donne des exemples parce que j'adore ça, pour un enfant qui refuse de coopérer, ben on peut déjà se rapprocher de lui, se mettre à sa hauteur et lui dire « Alors, je vois que c'est difficile pour toi. Est-ce que ça te dit qu'on le fasse ensemble, qu'on essaye ensemble ?» Par exemple, pour un adolescent, on peut remplacer déjà les questions qui sont insistantes par « Écoute, quand tu seras prêt, et si tu veux, ben je suis là et je peux en discuter avec toi. » Mettre des mots sur les émotions aussi, ça c'est vraiment très important. Un enfant, par exemple, qui crie, on peut lui dire « Bon, je vois que tu es en colère, je suis là. » Ou sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, « Écoute, je vois que tous les deux, toi et moi, on est vraiment en colère. Bon, je vais respirer. Toi aussi, prends un petit moment pour respirer, après on pourra en discuter. » Ou tout simplement, donc parfois, vraiment, quand certains parents traversent de grandes colères, il vaut mieux quitter la pièce et revenir après. Et puis, il y a aussi quelque chose de très puissant, mais vraiment très puissant, c'est ce temps de réparation. Après un moment difficile, revenir et dire « Écoute, tout à l'heure, je me suis vraiment emportée, j'aurais pu faire autrement. » On peut aller plus loin en disant, voilà, écoute, je suis désolée. Je sais que parfois c'est très difficile de s'excuser, ça, de demander des excuses. Ça, je le comprends. Mais n'oublions pas que c'est aussi un message très fort pour l'enfant, parce qu'on lui dit, la relation compte plus que l'erreur et que je t'aime. Donc, il n'y a pas de chantage affectif. Je t'aime, même quand tu fais des erreurs, même quand ce n'est pas idéal, parfait, etc.
Alors, comment accompagner un enfant qui a déjà été exposé à des cris, des punitions ou des violences éducatives, même involontaires? Peut-on réparer?
Alors, déjà, le involontaire, c'est important parce que oui, généralement, c'est involontaire. Comme j'ai dit avant, ça part de cette volonté, de cette intention de vouloir instaurer un cadre. Voilà. Donc oui, est-ce qu'on peut réparer? Évidemment qu'on peut réparer. Bon, ça peut prendre du temps, ce qui est tout à fait normal. Et oui, la réparation est possible. C'est ce que je dis tout le temps pendant les ateliers, pendant les consultations avec les personnes que j'accompagne. La réparation est possible. Et heureusement, parce qu'on a aussi un cerveau qui a été créé d'une manière juste fantastique et grâce à cette plasticité cérébrale, on peut changer les choses et on peut les améliorer. Encore une fois, oui, ça va demander de l'entraînement, de la répétition. Et bien sûr, oui, c'est possible. Et d'ailleurs, un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Non, il a besoin d'un parent qui revient. Et un parent aussi qui peut dire « je n'ai pas bien fait ». Et je veux faire autrement. Avec un petit enfant, ça peut être un câlin, une parole douce. Avec un adolescent, souvent ils sont plus, ils s'éloignent, ils s'enferment. Ça peut être une discussion sincère. Et on fait pas, enfin, on prend pas le temps d'échanger quand tout le monde est en colère. Non. Donc c'est quand tout le monde est calme. Et de dire tout simplement, écoute, je me rends compte que j'ai été dur avec toi, par exemple. Ces moments-là sont extrêmement réparateurs. Et ensuite, ce sont les petites choses du quotidien. Écouter, respecter, se respecter et être présent. Et c'est ça qui permet de réparer et de se reconstruire et de reconstruire le lien.
Doha Hassouni, dans vos accompagnements, quelle transformation observez-vous chez les parents qui adoptent une démarche de non-violence éducative?
Alors souvent, ce qui change en premier, je dirais que c'est le regard. Un enfant qui pour le parent faisait exprès, où il me cherchait, où il me provoquait, devient un enfant qui exprime quelque chose. Un adolescent plutôt rebelle devient un jeune qui cherche sa place. Et concrètement, ça apaise beaucoup de situations. Un verre, par exemple, j'adore donner à chaque fois cet exemple, un verre renversé devient, ce n'est pas grave, viens, on nettoie. Et donc, on apprend à partir d'une erreur. Et un conflit aussi, parce qu'on a peur des conflits, devient, bon, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Ou voilà comment moi, j'ai compris les choses. Donc oui, peut-être que bon, j'ai vu les choses différemment. Et surtout, les parents, dans ce cas-là, se sentent généralement moins seuls et moins en échec. Ils se reconnectent à quelque chose de plus doux et de plus juste pour eux et pour leurs enfants.
Ma dernière question, Doha Hassouni, comment encourager les écoles, les institutions et la société à soutenir davantage les parents dans cette transition vers une éducation plus respectueuse?
Alors là, c'est vraiment, c'est le cœur de mon métier, c'est ce que j'adore faire, travailler avec à la fois les écoles, les institutions, les parents, toutes les personnes qui sont là autour des enfants, de près ou de loin. Et c'est essentiel parce qu'un parent ne devrait jamais avoir à apporter tout ça tout seul. Et aujourd'hui, bon, il y a des avancées. Les châtiments corporels sont interdits en France. Mais encore une fois, une interdiction ne suffit pas. Il faut accompagner. Et ça existe. On peut intervenir aujourd'hui dans des crèches, dans des écoles, dans des structures médical, proposer des ateliers, former des professionnels, les sensibiliser. Et il y a des associations aussi qui proposent ça. Et c'est des accompagnements de grande qualité. Parce que plus les adultes autour de l'enfant sont formés, sont sensibilisés, plus on aura un environnement qui devient cohérent. Et puis, il faut des espaces pour les parents aussi, des lieux où ils peuvent dire « je ne sais pas comment faire ». Et sans être jugé, je ne fais peut-être pas comme il faut, et en prenant aussi en compte leur culture, leur histoire, cette double culturalité que vivent certains parents aussi. Voilà, donc au fond, c'est un changement de regard collectif qui nous permet de passer de « écoute, tu devrais faire autrement » à « comment ?» On peut t'aider à faire autrement. Et c'est ça qui change tout.
Merci beaucoup, Doha Hassouni, pour cet éclairage précieux. À travers vos mots, on comprend que la non-violence éducative n'est pas une théorie idéale, mais une pratique quotidienne faite de patience, de conscience et d'amour. Accompagner un enfant sans violence, c'est lui offrir la possibilité de grandir en confiance et c'est aussi permettre aux parents de se transformer eux-mêmes.
Bah écoute, merci beaucoup, ma chère Zohor. Vraiment, merci pour le choix déjà de ce sujet. Et puis le 30 avril, bon, non seulement c'est cette journée dans laquelle on parle de cette éducation non violente, mais c'est aussi bon, la date de mon anniversaire, donc j'en fais aussi, je pense, une mission de vie aujourd'hui. Voilà, donc merci encore une fois.
Merci beaucoup, Doha. Au nom de tous les auditeurs, on vous souhaite un très joyeux anniversaire. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité et que cette journée du 30 avril soit l'occasion d'ouvrir un chemin plus doux, plus juste et plus humain dans nos familles. Merci.
En famille, avec Zour sur Radio Orient.